Midi 1, Karima, Matin Famille.
Et voilà, comme convenu, nous sommes en direct avec le docteur Atman Lorabi, qui est psychiatre, psychothérapeute et secrétaire général de l'association marocaine de psychiatrie psychodynamique. Aujourd'hui, on parle du stress post-traumatique. Bonjour docteur.
Bonjour, ravi d'être avec vous en direct sur les ondes de Média Radio.
Tout le plaisir est pour nous, docteur. Aujourd'hui, je ne suis pas seule en studio, Selma m'accompagne.
Bonjour docteur.
Bonjour Selma.
Enchantée.
De même.
Voilà, présentation à part, docteur Atman Lorabi, quand on parle de stress post-traumatique, ça veut dire quoi ?
Alors, ça va désigner un ensemble de symptômes qui vont survenir dans les suites d'un psychotraumatisme. Mmh. Et pour parler en termes de critères, alors il faut d'abord rappeler qu'il est absolument normal que suite à un traumatisme, et quand je parle de psychotraumatisme, c'est-à-dire c'est un traumatisme où il y aura eu un réel danger de mort ou un réel danger concernant notre intégrité physique, c'est-à-dire que ça rejoint aussi les violences sexuelles. Alors, aussi bien la nôtre, c'est-à-dire on peut être directement concerné, tout comme ça peut être quelque chose qui concerne un proche, un enfant, un parent, un ami. Hein. Mmh. Et donc, une fois qu'il y a ce genre d'événement, ça peut être une annonce, hein, on n'est pas obligé d'être témoin du drame, ça peut être lors de l'annonce, justement le fait d'apprendre la nouvelle, et ben c'est normal d'éprouver un ensemble de symptômes qui vont se manifester par une détresse psychologique, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, le fait de se sentir un petit peu, d'avoir des souvenirs répétitifs ou des flashbacks, ce genre de choses. Donc, je donne un peu les choses un peu stéréotypées, relativement connues, mais pendant un mois. Voilà, c'est ça ce qui est la norme. La norme, ce qui est admis, c'est que justement, suite à un psychotraumatisme, eh ben, on va avoir des détériorations qui vont durer jusqu'à un mois de manière normale, de manière physiologique. Donc, c'est un petit peu le temps, la durée qu'il nous faut pour, entre guillemets, digérer ou phagocyter un psychotraumatisme. Le syndrome de stress post-traumatique donc se définit quand l'ensemble de ces symptômes persiste au-delà d'un mois. Mmh. Au-delà d'un mois, donc après la survenue du traumatisme, et il y a un ensemble de détériorations qui vont atteindre absolument tous les aspects de la vie psychique de la personne, et même sur le plan physique, parce qu'il y a beaucoup de symptômes physiques, et donc sur le plan psychique, on va avoir pêle-mêle, bon, des souvenirs répétitifs, involontaires, du drame. On peut avoir des cauchemars stéréotypés qui reviennent très souvent, toutes les nuits, des flashbacks. Alors, la différence entre flashback et souvenir, c'est que le flashback, réellement, on a l'impression de revivre la scène, ou qu'on est à deux doigts de la revivre. C'est-à-dire, ce sont vraiment des sensations corporelles au-delà juste du souvenir. Et avec cela, à cela vont s'ajouter d'autres symptômes, donc qui sont retenus de manière critérielle, c'est-à-dire dans la définition, c'est que on voit que la personne va avoir des altérations au niveau de ses pensées et même au niveau de son humeur après l'exposition justement au traumatisme. Donc on peut avoir des troubles de la mémoire, ce qu'on appelle une amnésie dissociative, c'est-à-dire où la personne ne se rappelle pas de choses importantes ou d'événements, ou de détails importants lors de la survenue du traumatisme. On va avoir des cognitions négatives sur soi-même, de l'autodévalorisation, ou même sur le monde environnant, on va être tout le temps en train d'attendre le pire. Il peut y avoir des symptômes qui ressemblent à la dépression, avec une altération de l'humeur, une altération de l'intérêt pour les choses et une réduction des activités. Et tout ça, donc ces symptômes vont aussi être associés, je le disais tout à l'heure, à des symptômes physiques qui vont, entre guillemets, traduire un état d'hypervigilance. C'est comme si notre corps était encore marqué par cette peur intense qu'on a eue, où on va avoir des réactions de sursaut exagérées, on va avoir des accès inopinés de tachycardie et de sueur, un peu comme si on sentait la peur au ventre qui survient vraiment à n'importe quel moment. On peut avoir à l'extrême des comportements d'agitation, des comportements un petit peu autodestructeurs qui apparaissent lors de ces pics. Mm-hmm. Donc, et c'est ça toute l'image du syndrome de stress post-traumatique qui, j'aimerais bien le souligner aussi, peut se déclencher un petit peu à distance hein, du traumatisme, parce que souvent il y a des problèmes de repérage en termes diagnostiques, parce que on peut avoir par exemple des symptômes qui évoquent le syndrome de stress post-traumatique mais qui n'apparaissent que plusieurs mois après la survenue du traumatisme. Ça peut arriver, c'est pas quelque chose qui remet en cause ou en question le diagnostic, mais qui mérite d'être repéré afin d'avoir une bonne prise en charge.
Donc on peut dire en quelque sorte que c'est du cas par cas.
Oui,
en termes de
symptômes, ce qu'on va vraiment voir de l'extérieur, on peut avoir des présentations cliniques très variables hein, d'une personne à une autre, en fonction aussi des capacités de chacun à mettre en œuvre des stratégies qui vont peut-être impliquer même son environnement, etc., les personnes autour de lui, pour pallier à certains symptômes. Donc, toujours extrêmement important quand on a eu des histoires comme ça de drames, de psychotraumatisme, à distance, d'arriver à évaluer notre état de santé pour voir justement est-ce qu'on est dans quelque chose qui peut s'inscrire dans la pathologie post-traumatique ou est-ce que le fait a été dépassé et intégré dans nos événements de vie.
Et vous parlez tout à l'heure, docteur, des symptômes physiques. Est-ce qu'il y a des moyens de calmer voilà ces symptômes quand ça arrive? Est-ce qu'il y a des exercices qui peuvent aider les personnes à calmer ces symptômes physiques qui arrivent d'un coup?
Alors, c'est une excellente question parce que effectivement, bien sûr, les exercices de relaxation, de méditation sont des exercices qui peuvent vraiment calmer un petit peu ces symptômes. Mais tout en sachant que quand on parle de syndrome de stress post-traumatique, ces symptômes sont d'une violence assez intense, hein, un peu à la mesure du traumatisme, c'est-à-dire que quand on va parler de sursaut, du fait d'avoir constamment peur, des choses comme ça, c'est quelque chose qui est très intense. Et pourquoi je vous remercie concernant cette question? Parce que ça va me permettre d'aborder également la notion de comorbidité, ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire les maladies qui vont survenir au décours de l'évolution d'un syndrome de stress post-traumatique. Et directement lié avec votre question, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, pour calmer tous ces symptômes, vont recourir à des consommations d'alcool ou de drogue. Et c'est probablement, la complication la plus fréquente des syndromes de stress post-traumatique. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui ont été menées en Europe sur les personnes qui interviennent en première ligne lors d'accidents de la route graves ou lors d'autres incidents plus graves, des accidents industriels, des choses comme ça, c'est-à-dire les pompiers, la police, etc., sont des personnes qui vont assez souvent avoir une consommation d'alcool peut-être un peu exagérée, enfin en tout cas c'est ce que les études démontrent à l'étranger, et eu égard justement de la prévalence des symptômes de syndrome post-traumatique chez ces personnes-là. Parce que effectivement, à court terme, l'alcool, les drogues, etc., ça peut calmer ces fameux symptômes dont on parlait, mais le problème c'est que étant donné qu'on est dans la répétition et dans la chronicité, on forme vraiment un terrain absolument, je dirais, propice au développement d'un trouble addictif grave également. Donc c'est un point qui est important de signaler, et ce d'autant plus que très souvent, là je parle en tant que médecin, la demande quand on va des gens qui vont venir consulter beaucoup plus pour le trouble addictif, et si on fait pas attention, on va passer à côté justement du diagnostic sous-jacent qui est un syndrome de stress post-traumatique qui est à l'origine
Déclenché ces addictions.
Absolument.
Et docteur Atman Lorabi, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a affaire justement à une personne qui souffre d'un stress post-traumatique, après l'avoir reconnu justement?
Alors, d'un point de vue prise en charge, il y a deux dimensions qui sont importantes. Alors, L'intensité de la détresse psychologique est éminemment importante parce que si on a un syndrome de stress post-traumatique avec une altération très profonde de l'intérêt et de l'humeur et puis des idées noires à longueur de journée et une hypervigilance à tous les moments à tel point qu'on peut même pas se retrouver sur la voie publique, n'importe quel petit son nous fait sursauter, il est évident à ce moment-là que, étant donné l'intensité de la détresse, une médicalisation est souhaitable, c'est-à-dire qu'on va mettre des médicaments pour arriver à soulager le niveau d'anxiété, le niveau d'hypervigilance et peut-être même mettre des choses pour améliorer l'humeur et rétablir un petit peu le fonctionnement normal de la personne. Mais en termes de prise en charge un peu plus spécifique de la pathologie traumatique, la psychothérapie est vraiment la meilleure des choses, si ce n'est la seule chose qui nous permet de travailler activement sur le traumatisme et d'arriver à le dépasser. Il y a plusieurs types de psychothérapie, mais grosso modo, si vous voulez, l'intérêt étant de se réapproprier les événements tels qu'ils se sont déroulés et d'arriver à les intégrer dans notre histoire personnelle, dans notre histoire de vie. On a tous une histoire et d'arriver à lui donner du sens. Et à ce moment-là, voilà, c'est ça ce qu'il y a lieu de faire en termes de traitement, entre guillemets, mais tout en, et je le souligne encore une fois, en restant vigilant à ne pas tomber dans des éléments qui peuvent être addictifs, parce que, je le disais, le syndrome de stress post-traumatique est un facteur de vulnérabilité extrême aux troubles addictifs.
Et justement,
par rapport aux médicaments, donc tout ce qui est sédatif, anxiolytique, etc., la vigilance est de mise.
Et l'entourage, docteur Atman Lerabi, quel rôle peut jouer justement l'entourage?
Si vous voulez, l'entourage a un rôle essentiellement au niveau de la qualité du soutien, parce que l'entourage ne peut pas avoir un comportement qui va être thérapeutique. Le seul comportement qu'on peut avoir, c'est de la bienveillance, être dans la compréhension. Et parce que malheureusement, le plus souvent, il y a beaucoup d'incompréhension dans l'entourage qui peut être familial, professionnel, amical, ou justement à travers le caractère chronique de ces troubles dont je parlais, c'est-à-dire qu'on peut être en train de sursauter de manière exagérée plusieurs mois après la survenue d'un incident, on peut avoir malheureusement droit à des remarques qui signent l'incompréhension, qui vont être « mais ça y est, c'est bon, tu l'as dépassé, ça fait déjà plusieurs mois que c'est arrivé, tu vas pas continuer à sursauter comme ça ». Il faut s'empêcher de dire ce genre
bien
de choses, même si l'intention n'est pas mauvaise. Mais justement, c'est parce que je le disais, peut-être je l'évoquais tout à l'heure, c'est très fréquent que dans le cadre d'un syndrome de stress post-traumatique, il y a vraiment des symptômes de l'ordre de la dépression. Et le fait justement de renvoyer à quelqu'un l'image de qu'il n'arrive pas à dépasser quelque chose et donc que c'est un faible, entre guillemets, et ben c'est quelque chose qui risque d'aggraver la détresse psychologique.
Salma.
Et oui, justement, l'entourage peut manquer, pas forcément d'empathie, mais on ne peut pas vraiment s'identifier à la crise qu'une personne peut avoir, c'est ça ?
Absolument. Enfin, l'entourage est dans l'incompréhension. Tout simplement, parce qu'il n'y a pas forcément une connaissance de la pathologie mentale au sens général du terme, et puis surtout dans ses spécificités quand on parle de syndrome de stress post-traumatique, surtout quand il y a des symptômes bruyants. Donc le rôle de l'entourage, encore une fois, c'est la disponibilité, c'est la bienveillance, c'est le soutien. Et le soutien, c'est quoi? C'est se rendre disponible, ne serait-ce que pour de la logistique, c'est-à-dire si la personne, on voit qu'elle n'est pas bien, qu'elle n'arrive pas à sortir, ou qu'elle se retrouve dans une situation où elle est un peu en angoisse, le fait de lui proposer, par exemple, de sortir faire les courses à sa place, c'est du soutien.
Bien sûr, c'est des petits gestes comme ça qui peuvent aider.
Absolument. Ce sont d'ailleurs souvent des petits gestes. Et j'aimerais aussi tordre le cou à une idée reçue qui est un peu je dirais qui est un peu dangereuse, mm-hmm. c'est que, un peu comme dans les films, suite à la survenue d'un accident grave, un crash, des choses comme ça, on imagine qu'il faut immédiatement aller parler à un psychologue ou un spécialiste donc en termes de santé psychique pour essayer de dépasser immédiatement le traumatisme. Mmh. C'est une erreur, hein. Il faut respecter la volonté de la personne, c'est-à-dire quand la personne a envie d'en parler, bien sûr, là, il n'y a pas de souci, mais le fait de forcer une personne à aller voir un psychologue ou un psychiatre et repartir dans le détail, dans les détails un peu morbides du drame, etc., et ben ça peut être quelquefois un facteur, de consolidation du syndrome de stress post-traumatique.
Ça peut avoir l'effet inverse, justement, et empirer la situation en quelque sorte.
Absolument. Donc je voulais juste faire cette petite précision.
C'est noté, docteur Atman Lorabi. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir encore une fois dans Matin Famille.
Tout le plaisir est pour moi et je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, docteur. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.